Avais-tu la bonne idée de lui proposer son aide et lui, il avait eu la mauvaise idée de lui répondre qu'il allait s'en sortir tout seul. Il la retrouva au bagage, avec ses deux enfants et ses bonnes intentions. Les sacs se bousculaient sur le tapis roulant. Et les gens allaient et venaient, y compris certains qui n'avaient rien à faire là. Juan Diego oubliait à quel point il semblait vulnérable au milieu d'une foule. Mais la jeune femme avait forcément remarqué ce qui était flagrant pour tout le monde. Cet infirme distingué paraissait perdu. Il règne une pagaille terrible à l'aéroport. Est-ce que quelqu'un vient vous chercher? Lui demanda-t-elle. Quoique philippine, elle parlait un anglais excellent. Quant à ses enfants, ils ne les avaient entendus parler qu'en tagalog. Mais ils avaient l'air de comprendre ce que leur mère lui disait. Est-ce qu'on vient me chercher? Répéta Juan Diego. Même ça, il n'en sait rien, avait dû penser la jeune mère. Il ouvrit le compartiment de son sac où l'itinéraire était glissé. Il lui faudrait ensuite farfouiller dans la poche de sa veste pour y prendre ses lunettes, comme il l'avait fait à JFK, dans le salon des premières de British Airways, le jour où Myriam lui avait retiré le papier des mains. Et voilà qu'il présentait une fois de plus toute l'apparence du voyageur novice. Encore heureux qu'il n'ait pas dit à la jeune philippine comme à Myriam « Je trouvais que je partais trop loin pour emporter mon ordinateur. » Quelle imbécilité, songeait-il à présent, comme si la distance faisait quelque chose à l'affaire. Clark French, son ancien élève qui ne doutait de rien, avait organisé son voyage pour lui. Sans consulter l'itinéraire, Juan Diego aurait été incapable de se rappeler quelles dispositions avaient été prises, sinon que Myriam avait critiqué le choix des hôtels et qu'elle lui en avait conseillé d'autres pour son second séjour. Il se souvenait sur quel ton cette femme si sagace lui avait dit « Croyez-moi ». Tout en cherchant ses lunettes, il essayait de s'expliquer pourquoi il ne la croyait pas, alors même qu'il la désirait. Il vit qu'il allait descendre au Shangri-La de Makati, et s'en alarma tout d'abord, ne sachant pas que cette ville faisait partie de la métropole de Manille. Et comme il repartait le lendemain pour Bohol, personne de sa connaissance ne venait le chercher à l'aéroport, pas même un membre de la famille de Clark French. Son itinéraire lui révéla pourtant qu'il serait attendu à l'aéroport par un chauffeur professionnel et personne d'autre, avait écrit Clark. Un chauffeur et personne d'autre, répondit enfin Juan Diego à la jeune philippine. Elle dit quelques mots en tagalog à ses enfants, tout en leur désignant sur le tapis roulant un énorme sac à la forme bizarre. Au coude que décrivait le tapis, le mastodonte fit dégringoler ses congénères. Les enfants se mirent à rire de ce sac bouffi. On aurait pu y loger deux labradors, pensa Juan Diego. Et comme c'était le sien, il lui fit honte. Un sac aussi moche et aussi encombrant vous classait irrémédiablement parmi les voyageurs novices, une fois de plus. Il était orange, de cet orange fluo que porte le chasseur pour ne pas être pris pour un animal, de cet orange gueulard des cônes qui indique la présence de travaux sur la voie publique. La vendeuse avait réussi à le lui fourguer en affirmant que ses compagnons de voyage ne risqueraient pas de le confondre avec le leur. Un sac comme celui-là, il n'y en aurait pas deux. À l'instant même où la mère de famille et ses enfants hilares commençaient à se douter que ce sac boulet lui appartenait, il pensa à Seigneur Eduardo, qui avait vu abattre sa chienne Labrador à un âge où tout vous marque. Il eut les larmes aux yeux à l'idée que ce sac hideux était assez grand pour héberger deux Béatrices bien-aimées d'Edward Bonshaw. Il est fréquent que les larmes des adultes prêtent à confusion. Qui peut savoir quelle période de leur existence ils sont en train de revivre? La maman charitable et ses deux enfants durent croire que le boiteux pleurait parce qu'il venait de se moquer de son bagage. Le malentendu ne s'arrêterait pas là. La pagaille régnait en effet dans cette zone de l'aéroport où amis et familles, sans compter les chauffeurs professionnels, venaient attendre les passagers. La jeune mère proposa donc de rouler le cercueil canin biplace, tandis que Juan Diego se coltinait la valise qu'elle venait de lui confier, ainsi que son propre bagage à main. Quant aux enfants, qui portaient de petits sacs à dos, ils se partageaient le sac cabine de leur mère. Juan Diego dut dire son nom à cette dame serviable, pour qu'il repère son chauffeur, qui porterait une pancarte indiquant Juan Diego Guerrero. Or, la pancarte annonçait « Señor Guerrero ». Si Juan Diego ne sut que penser, la jeune femme comprit tout de suite qu'il s'agissait de son chauffeur. C'est vous, n'est-ce pas? Lui dit cette patiente créature. Il aurait eu du mal à lui expliquer pourquoi son propre nom l'avait laissé perplexe, mais il finit par comprendre le contexte où il se trouvait. S'il n'était pas né Señor Guerrero, il était bel et bien le Guerrero qu'attendait le chauffeur. C'est vous l'écrivain, n'est-ce pas? Vous êtes bien le Juan Diego Guerrero écrivain? Lui demanda le chauffeur, beau gosse. En effet, lui répondit-il. Il n'aurait pas voulu que la jeune mère se sente coupable de ne pas savoir qui il était. Mais lorsqu'il la chercha des yeux, elle et ses enfants avaient disparu. Elle s'était éclipsée sans savoir qu'il était Juan Diego Guerrero, l'écrivain. Et c'était tant mieux, car elle avait accompli sa bonne action pour l'année. Je dois mon nom à un écrivain, annonça son jeune chauffeur, qui eut du mal à soulever ce sac inavouable pour le placer dans le coffre de la limousine. Bienvenido Santos. Vous avez lu son œuvre? Non, mais j'en ai entendu parler. J'aurais horreur qu'on dise ça de moi, songea-t-il. Vous pouvez m'appeler Ben. Il y a des gens qui trouvent Bienvenido bizarre. Moi, j'aime bien. Je vais être votre chauffeur pour tous vos déplacements dans Manille, pas seulement jusqu'à votre hôtel. Votre ancien élève me l'a demandé. C'est lui qui m'a dit que vous étiez écrivain. Désolé, je n'ai pas lu vos livres. Je ne sais pas si vous êtes connu. Je ne le suis pas, s'empressa de répondre Juan Diego. Bienvenido Santos est célèbre. Il était célèbre ici, du moins. Il est mort à présent. J'ai lu tous ses livres. Ils sont rudement bien. Mais je pense qu'on a tort de donner le nom d'un écrivain à son gosse. Toute mon enfance, j'ai su qu'il fallait que je lise les bouquins de ce monsieur Santos, et il y en avait un tas. Vous vous rendez compte? Si je les avais détestés, ou bien si je n'avais pas aimé la lecture, c'est lourd à porter. Je vous comprends. Vous avez des enfants? Non. La réponse n'était pas si simple. C'était une autre histoire et il n'aimait pas y penser. Si j'en ai un jour, je ne leur donnerai pas le nom d'un écrivain, ajouta-t-il simplement. Je connais déjà l'une de vos destinations ici, dit le chauffeur. J'ai cru comprendre que vous voulez vous rendre au cimetière et mémorial américain de Manille. Pas à l'aller, je ne fais que passer, mais au retour. Quand vous voudrez, pas de problème, je vous y conduis, Seigneur Guerrero. Appelez-moi Juan Diego, je vous en prie. Bien sûr, comme vous voudrez. Ce que je vous dis, Juan Diego, c'est que tout est prévu, tout est organisé, ce sera comme vous voudrez, quand vous voudrez. Je déciderai peut-être de changer d'hôtel, pas cette fois-ci, mais à mon retour, lâcha Juan Diego. Vous n'aurez qu'à dire. J'ai eu des échos négatifs de cet hôtel. Dans mon métier, j'entends des tas de choses négatives sur tous les hôtels. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur le Shangri-La de Makati? La circulation était bloquée et tout le vacarme de ces embouteillages évoquait davantage une gare routière qu'un aéroport. Le ciel était d'un beige sale, l'air humide et fétide, et la climatisation de la limousine est trop poussée. Après, on n'y croit pas, il faut faire la part des choses, vous savez. Ça a été mon problème quand j'ai lu le roman. Y croire. Quel roman? Shangri-La est un pays imaginaire dans un roman qui s'appelle L'Horizon perdu. Il a été écrit dans les années 30, je crois, j'ai oublié le nom de l'auteur. Imagine qu'on dise ça d'un de tes livres, pensa Juan Diego. Autant s'entendre dire qu'on est mort. Pourquoi cette conversation avec le chauffeur l'épuisait-il à ce point? La rue se dégagea et la voiture s'élança aussitôt. Mieux vaut un air pollué que la climatisation, décida Juan Diego. Il baissa sa vitre et l'air beige sale lui souffla au visage. Le smog lui rappelait le Mexique, ce dont il se serait bien passé. L'atmosphère viciée, cette atmosphère de gare routière, lui rappelait des souvenirs d'enfance associés au car de Oaxaca, dont la proximité lui semblait infectieuse. Et dans ses souvenirs d'adolescence, les rues au sud du Zocalo était bel et bien un foyer d'infection, la calle Saragossa en particulier, et aussi celle qu'ils prenaient pour s'y rendre depuis l'orphelinat. Car une fois les religieuses endormies, Juan Diego et Lupe allaient y chercher Esperanza. Il se peut que l'une des choses que j'ai entendu dire ne repose sur rien, risqua Bienvenido. Quoi donc? Par la vitre ouverte, Juan Diego sentait les odeurs de cuisine. Il passait devant une sorte de bidonville où la circulation ralentit. Des vélos se faufilaient entre les voitures, des enfants sans chemise ni chaussures se précipitaient dans la rue.